Je vous invite à commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, à chaque fois quand on te prie, nous te remercions déjà pour le partage, pour la parole, pour ce que nous avons dit déjà avant. Nous croyons en toi, tu conduis toutes choses par l'Esprit Saint. Et que Seigneur, ce que nous avons échangé ce matin, que ce soit des paroles, des chants, des prières, que Seigneur, ça s'enracine dans notre cœur, même si nous ne comprenons pas, parce que nous savons que ta parole trouve écho dans notre cœur, le seul qui peut te recevoir. Je remets entre tes mains, Seigneur, ce message, qu'il parle d'abord à l'orateur, et Seigneur, avant qu'il parle à mes frères et sœurs, mais que l'objectif, c'est pour l'avancement de ton royaume. C'est toi qui parles au cœur, c'est toi qui corriges. Et Seigneur, nous sommes faibles et moi le premier. Il y a beaucoup de subjectivité, beaucoup de choses que je vais dire subjectives. Et bien Seigneur, c'est toi qui parles à chacun de nous, que ce soit un enseignement personnel à chacun, mais aussi collectif pour ton Église. Guide toutes choses selon ta volonté. Et l'essentiel, c'est que nous vivions concrètement cette communion et que nous avançons ensemble pour son rencontre finale où nous régnerons ensemble avec toi. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je voulais annoncer juste avant le mois d'août, non seulement les messages, mais aussi les études, les rencontres de la semaine, c'est qu'on essaye un peu de revenir de plus en plus, on le faisait déjà, mais encore plus, cette fois-ci, revenir à la parole de Dieu. Comme vous le savez, le vendredi, on a commencé déjà ce vendredi-là, nous le consacrons à la lecture de la parole de Dieu. Il y en a qui disent, mais non, mais il faut que je comprenne. Moi, je réponds, lisons la parole de Dieu, ça parlera à notre cœur. Pourquoi toujours ramener au comprendre? Ben, dans ce cas-là, ces personnes, depuis plus de 2000 ans, qui ont entendu la parole de Dieu sans culture, sans capacité, ils n'ont pas reçu la parole de Dieu, ceux-là. La première église, qu'on appelle l'église primitive, souvent, mais pas toujours non plus, souvent ils se réunissaient pour écouter la parole de Dieu. On ouvrait le rouleau et on lisait. Personne n'interprétait la parole de Dieu. Personne n'osait le faire. Mais passer des heures à écouter. Et nous aujourd'hui, j'ai dit j'écoute si je comprends. Expliquez-moi, vous n'avez pas besoin de nous parler de la parole de Dieu. Eh bien, nous avons décidé ensemble que vendredi, nous avons commencé à lire le Nouveau Testament de l'Évangile de Matthieu jusqu'à le livre de l'Apocalypse. Nous lisons et nous croyons en Dieu qui parle au cœur. Mais sinon, ce n'est pas la peine d'avoir la foi. Eh bien, mes frères et sœurs, vous pouvez vous joindre à nous dans la lecture. Vous saurez que nous avons commencé par l'évangile de Matthieu. Eh bien, lisez avec nous. Nous avons lu les trois premiers chapitres. Les deux premiers, parce que comme c'est la première rencontre, nous avons discuté de choses et d'autres avant. Mais le but, c'est qu'on lise ensemble cinq chapitres, voire six. Eh bien, vous saurez maintenant chaque semaine, dans la communion fraternelle, lisez les cinq chapitres, les premiers chaque chapitre de Matthieu.
Vas-y. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre sur notre groupe WhatsApp ce que vous avez exactement?
Très bien. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'échange. Voilà, justement, on échange. Eh bien, voilà une idée. Donc, non seulement le dimanche, je vous le dis, ou la personne qui sera devant vous le dira, mais en même temps, donc WhatsApp, Raymond, par exemple, tu pourras le mettre, ou Corinne, ceux qui sont sur WhatsApp. Ça, c'est le vendredi. Ça permet de lire ensemble, on lit ensemble, et c'est ça aussi, c'est une sorte de communion. Le mardi soir, nous revenons toujours à la parole de Dieu, et cette fois-ci, nous allons commencer à explorer ensemble l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et, en fait, explorer, on ne va pas pouvoir lire en direct, mais nous sommes arrivés encore en discutant vendredi. C'est que comme nous allons explorer l'Ancien Testament en présentiel ici à travers quelques vidéos qui résument les livres, mais on ne pourra pas lire l'Ancien Testament en direct ici parce qu'il faut des... Eh bien, vous saurez que, par exemple, on vous le dira peut-être aussi par mail, on verra, on va trouver une solution pour vous mettre au courant. Eh bien, nous allons explorer ensemble, par exemple, dans les 15 jours qui viennent, la moitié de la Genèse. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ben, lisez en 15 jours la moitié de la Genèse, comme ça on est en communion. Vous voyez ? Et comme ça on avance, et on verra avec le temps, ensemble, on aura lu, exploré la parole de Dieu, ensemble, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà ce que nous avons. Donc, ajoutez à cela, donc, les messages que je suis des fois amené à apporter le dimanche. C'est subjectif et l'homme est faible. Et c'est vrai que les messages sont en lien avec ce que nous vivons la semaine. Mais des fois, il arrivait le vendredi que je n'ai pas de sujet par rapport à ce qu'on a vécu ou dans sa vie privée ou n'importe quoi. Alors, je suis perdu. Quel message il faut dire le dimanche ? Oui. Et souvent, on est tenté d'aller sur Internet se pomper des messages. Oui. Non, mais oui, la facilité. L'homme, eh ben, la solution est toute simple. Revenir en une fois à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui s'impose à nous, et c'est pas moi qui impose le message à la parole de Dieu. Parce que quand je cherche un sujet, par exemple, sur l'amour, et je vais chercher les versets. Donc j'impose le sujet à la parole de Dieu. Ben, pourquoi l'inverse? C'est pas confortable. C'est pas confortable parce que là, d'un seul coup, je deviens un peu faible devant la parole de Dieu. Et ben, l'idée, c'est prendre un livre en entier, du premier verset jusqu'au dernier verset, l'évoquer à travers un message, et c'est la parole qui s'impose. C'est pour ça que je vous propose, cette année, que je revienne certainement, j'avais lu l'évangile selon Marc, d'autres lectures, d'autres commentaires, et bien je vais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a beaucoup de subjectivité, vous le comprendrez, mais à vous, pendant la prédication, d'ajouter, de rectifier, c'est votre droit, et je dirais même l'obligation que vous avez dans la communion fraternelle. Voilà. Donc ce que je vais vous apporter, c'est par rapport à l'évangile de Marc, nous allons l'explorer ensemble, de début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, ce sera une introduction, une simple introduction, parce que pour moi, avant de commencer à étudier la parole de Dieu, parce qu'avant le message historique, il y a le message spirituel, et c'est le plus important. C'est pour ça que quand on parle du déluge, je suis d'accord, très bien, mais quel est le message spirituel derrière le déluge pour nous? Ça, c'est encore plus vivant. Et comme ça, ce qu'il faut savoir avant de commencer avec d'étudier l'évangile de Marc, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà qui est Marc. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis que j'écoute un message, que ce soit sur Internet ou n'importe, avant d'écouter le message, je voudrais bien savoir qui est le messager. Parce que le messager doit incarner le message. Sinon, c'est pas la peine. Si le messager apporte autre chose contraire au message, le messager apporte le message. Donc, j'ai envie de dire, comme nous savons que c'est la Bible, on sait très bien que Marc est un serviteur de Dieu. Il est conduit par l'Esprit Saint. Mais c'est intéressant de savoir si Dieu a appelé le Saint-Esprit à œuvrer à travers Marc, pourquoi? Parce que c'est un enseignement pour nous aussi, dans la marche de l'Église. Alors c'est pour ça, ce premier message, ce sera qui est Marc. Et avant même de parler qui est Marc, quand on dit l'évangile de Marc, comme vous savez, c'est le plus court. Hein, il y a 16 chapitres, je pense, si je ne me trompe pas. Et il commence par « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». En fait, c'est le titre de l'évangile, ça. Dès le début, on nous dit le titre. Voilà de quoi il va parler, l'évangile de Marc. Dès le départ, on nous dit. Vous savez, cet évangile-là, il vous présente le Seigneur Jésus-Christ comme Messie et comme Dieu. Maintenant que le titre est donné, Marc va nous expliquer. Maintenant, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi Jésus est non seulement fils d'homme, mais il est fils de Dieu. Il est non seulement le Messie, mais il est aussi le fils bien-aimé de Dieu. Et il commence tout de suite par le baptême, etc. Il ne va pas dans la généalogie. Il est en train de nous montrer, en fait, de nous expliquer c'est quoi un chrétien. C'est ça l'évangile de Marc. Il est tellement simple, parce qu'il s'adresse avec un langage simple, il ne s'adresse pas, comme Matthieu, aux érudits, aux juifs, il s'adresse à tout le monde, y compris les païens, les romains, etc. Il est très, très intéressant. Alors l'évangile selon Marc, comme je vous ai dit, c'est en deux parties. Aujourd'hui, donc, ce sera qui est l'auteur, qui est Marc. C'est très intéressant. Oui, ça parle pour nous, c'est un sens spirituel. Et après, la prochaine fois, Donc ce ne sera pas dimanche prochain, mais dimanche d'après, après Jean-Marie. On verra quel est le but, quel est le fil conducteur de cet évangile, qui le différencie, qui le distingue des trois autres. Et on verra que le Seigneur a tout fait, mais d'une manière parfaite. Alors, je vais juste... Alors, il faut savoir que, d'abord, avant de commencer par l'auteur, il est très difficile de dater cet évangile. On dit, allez, en gros, on dit entre 40 et 65 après Jésus-Christ. Certains pensent que l'évangile a été écrit environ des années 58-65. D'autres pensent qu'il est écrit avant la mort de Pierre. Entre, dans ce cas-là, c'est entre l'an 50 et 60 après Jésus-Christ. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas écrit après l'an 70. Parce qu'on s'accorde, et moi le premier dire, si il était écrit après l'an 70, il y aurait, à un certain moment dans l'évangile, une évocation de la destruction de Jérusalem. C'était tellement un phénomène, mais extraordinaire, dans le milieu juif, qu'il est impossible de ne pas évoquer la destruction de Jérusalem et du Temple, s'il était écrit après 70. Donc il est déjà là, c'est pour ça qu'on l'évoque avant. Donc, on dit c'est soit après la mort de Pierre, parce que Marc était influencé par Pierre, on dit même qu'il était l'interprète de Pierre, il l'accompagnait, soit après la mort, soit avant, mais dans une fourchette entre 40 et 65 après Jésus-Christ. Mais si on se fie, et là, il y a quelques récits historiques, donc là c'est l'historien qui parle, donc si je me réfère à des historiens connus hein, aujourd'hui, donc on ne les remet pas en doute, voilà un exemple de Papias qui était un évêque, voilà ce qu'il a écrit. Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait pas entendu ni accompagné le Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des paroles, etc. Donc il nous explique. Voilà, déjà, on a un document historique qui nous parle de Marc. Un autre document, c'est Irénée de Lyon. Il est connu. Et qui était disciple aussi d'un certain Polycarpe, qui était un des derniers disciples de l'apôtre Jean. Vous voyez, parce que... Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle des évangiles, voilà un document aussi authentifié, bien entendu. Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, vous voyez, Matthieu écrit pour les Hébreux, c'est les érudits, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et fondaient l'Église. Et je vous ai mis en jaune, concerne Marc. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple, l'interprète de Pierre, vous voyez, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. Vous voyez, donc on voit déjà, Marc, c'est pas un fantasme, une théorie, mais même historiquement, on peut expliquer l'existence de Marc et ce qu'il faisait. Mais là, si je vais maintenant à la grotte de Qumran. Attends, ce que je vais vous citer là, c'est quelque chose qu'on défend, mais peut être critiqué par d'autres. Hein. Donc, il n'y a pas, on va dire, consensus. Et là, nous avons dans la grotte de Qumran, on a trouvé un morceau de papyrus, et on a trouvé dedans un passage de Marc, et c'est Marc 6, verset 52-53. Et c'est un jésuite qui s'appelle José Ocolagan, espagnol, nous a présenté son explication et il dit que déjà dans cette grotte, il y avait déjà un passage de Marc. Et là, je vous laisse regarder, vous informer. Donc, voilà. Marc, qui est Marc ? Pour répondre à cette question, nous pouvons dire deux réponses. Nous pouvons affirmer que le Saint-Esprit a conduit un homme qui s'appelle Marc et on s'arrête là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais on oublie que le Saint-Esprit, s'il a choisi Marc, pourquoi faire? Pourquoi Marc? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Est-ce que le Seigneur choisit n'importe qui comme ça pour le servir? Ça doit être un enseignement pour nous. Il y a un cheminement qui se fait pour que le Saint-Esprit œuvre à travers un homme ou une femme. La première référence que nous avons dans la Bible, dans le Nouveau Testament sur l'auteur, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Comme ça, ça vous évite de prendre votre Bible. C'est dans Actes 12, verset 12. Voilà la première, on parle de Marc. Je précise que quand on dit Marc, on l'appelait Jean-Marc. Et précisons aussi, déjà dans l'appellation Jean-Marc, il y a déjà un enseignement. On sait pourquoi le Seigneur l'a appelé. Jean-Marc, c'est un prénom composé d'un prénom hébreu, hébraïque, et d'un prénom romain. Jean, c'est hébreu, Marc, c'est romain. Déjà dans le prénom, on a déjà le message. Le Seigneur utilise Marc pour s'adresser à tout le monde. Jean veut dire, Yohanan veut dire, en fait, Dieu fait grâce. Oui, Dieu a appelé Marc en tant que citoyen, mais dans un langage commun pour s'adresser à tout le monde. Donc, l'évangile de Marc, il s'adresse non seulement aux religieux, mais au commun des mortels, à tout le monde. Et voilà ce que nous lisions. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, c'est quand il est sorti de manière miraculeuse, quand il était en captivité. Certain que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, nommée Marc. C'est Jean-Marc. Vous voyez ? Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Première chose, cet homme utilisait la maison de sa famille pour prier, pour étudier. Et il recevait les apôtres en prenant des risques d'être arrêté, exécuté. C'est la première fois qu'on parle de Marc. Oui. L'histoire nous introduit dans la première étape de l'église primitive chrétienne qui se trouvait encore à Jérusalem. On assiste à la naissance de l'Église persécutée. Il se dirigea, Pierre se dirigea à la maison, vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient en prenant beaucoup de risques. Nous pouvons donc affirmer que Marc avait été en contact direct avec la première Église chrétienne et avec le cercle apostolique, étant témoin oculaire de tout ce qui se passait durant ces premiers jours du christianisme à Jérusalem. Le deuxième passage qu'on trouve, c'est dans Marc 13, verset 5. Voilà. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et dès là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc pour aide. Il n'était pas apôtre. Il était aide. Ça se peut qu'il leur apportait l'eau. Ça se peut qu'il prenait leurs chaussures. Ça se peut qu'il servait. Aide. Avant que le Seigneur l'appelle pour écrire l'évangile, d'abord leur maison, c'était une maison de prière. Deux, il était ami, une simple aide. Il était l'assistant. Appelons ça, comme ça. Cependant, c'était ce voyage missionnaire, d'ailleurs ce voyage missionnaire, qui allait un peu poser des problèmes à Marc, et on va dire, il a sali son dossier. Quoi. Comme nous pouvons le lire dans Actes 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perme, en Paphilie. Jean-Marc se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Il y a eu un problème. De Perge, ils poursuivirent leur route, ils arrivèrent à Antioche, etc. Donc là, on voit qu'il y a un problème, mais la Bible nous dit pas ce que c'est comme problème. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un problème, et hop, il est retourné à Jérusalem. Dans ce passage, nous ne savons pas les raisons qui conduisent Marc à se séparer d'eux, mais nous y trouvons toutefois quelques conséquences de sa décision. De fait, lorsque Paul et Barnabas décidèrent d'entreprendre leur deuxième voyage missionnaire, Marc fut le motif de désaccord qui conduisit la séparation des deux missionnaires. À cause de Marc, Barnabas et Paul se sont séparés. Car à vue humaine, on va dire, mais c'est pas bien. Mais non, cette séparation a créé deux équipes. Ils sont partis dans deux sens différents et l'évangile était annoncé. Vous voyez que notre logique, un peu. Dieu a utilisé Marc, que nous pouvons dire, peut-être qu'il a fait quelque chose de pas bien. Il a séparé les deux missionnaires. Mais au bout, la finalité, c'était quoi? L'évangile était annoncé. Donc, vous voyez notre logique, des fois, il faut faire attention pour la mettre de côté. Le sujet de discussion se basait sur le fait que Barnabas croyait que Marc avait changé et qu'il était dans les conditions de les accompagner parce que Barnabas voulait quand même prendre Marc avec lui. Mais ce qu'on va lire après, en fait, c'était son cousin. Donc vous voyez le lien familial. Dans Marc 15, 36, 40, je lis. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir à quel état ils sont. Barnabas voulait emmener Jean-Marc, d'accord, surnommé Marc avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Donc Barnabas prend Marc et part, et l'apôtre Paul part dans un autre sens, mais la parole de Dieu était annoncée. Mais on peut dire que ça y est, c'est fini pour Marc. L'apôtre Paul, il a jugé peut-être, il n'était pas, je sais pas, peut-être qu'il a, on ne sait pas ce que c'est, donc je vais faire des scénarios là. Donc ils sont séparés, le Seigneur les a utilisés. Mais on voit que cette séparation, c'était pour un temps. Puisque Marc va revenir chez Paul, et Paul ne dira que du bien sur Marc. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 10, la lettre de Paul aux Colossiens, voilà ce qu'il dit. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. L'historien que je suis, je me régale quand on fait une enquête. Et c'est ça qui est intéressant, quand je fais l'enquête sur Marc, on se rend compte que Barnabas est le cousin, Marc c'est le cousin de Barnabas, donc il y a eu un lien familial, il l'a gardé, et certainement il l'a transformé pour le changer, et Marc en fait respectant son cousin plus âgé que lui, donc Dieu a œuvré à travers lui, et il y a eu une amélioration en lui, au point que l'apôtre Paul me dit, maintenant c'est bon, tu peux venir. L'éducation du Seigneur, encore une fois, au sein de l'Église. Et c'est bien de suivre le cheminement de Marc. Ici, nous remarquons deux choses significatives. Premièrement, Marc et Barnabas étaient des parents proches, des cousins. Et deuxièmement, Paul était arrivé à avoir une pleine confiance en Marc, jusqu'au point de le recommander à l'Église, à Colosse. Le Seigneur n'appelle pas comme ça. Il y a toute une préparation qui se fait. Et quand il l'envoie à Colosse, on connaît déjà le cheminement de Marc. Ici, nous voyons que Marc faisait partie de l'équipe des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Philémon, la lettre de Paul à Philémon. Voilà ce qu'il écrit. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Ils l'accompagnent jusqu'à la souffrance, dans la captivité. Ici, nous voyons que Marc faisait partie de l'équipe de compagnons d'œuvre et de soutien dans la captivité de l'apôtre Paul. La dernière mention de Marc dans l'évangile, nous la trouvons dans, c'est Pierre lui-même qui l'écrit, qui l'évoque. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, voilà ce qu'il dit. L'église des élus qui à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. la parole de Dieu fait en sorte qu'on a déjà le fil conducteur. Marc, il arrivait à l'époque où Pierre, vous voyez, Pierre qui a accompagné le Seigneur, on dit à qui il a donné les clés, il dit à Marc, mon fils. C'est une marque non seulement d'affection, mais chez les Hébreux, c'est toute confiance. Continue l'œuvre. Je peux disparaître aujourd'hui, mon fils Marc. Toi, Dieu œuvre à travers toi dans l'esprit, je sais que ça continue. C'est ça, mon fils. À travers cette dernière citation sur Marc, nous voyons, et on le voit à travers son message, l'influence de Pierre sur Marc. Et quand nous lisons l'évangile de Marc, nous voyons très bien cette influence. Nous pouvons le voir dans les détails graphiques que requiert la présence d'un témoin oculaire. Quand on lit l'évangile de Marc, souvent il y a des questions, témoin oculaire ? Souvent, Marc parle d'un témoin vivant qui raconte. C'est pas n'importe quoi. Et ce témoin oculaire n'est rien d'autre que Pierre. Pourquoi ? Parce que, quand l'évangile de Marc, en le lisant, il est souvent question d'une personne qui est à Capernaum, dans une maison, dans sa barque, etc. Il est souvent question de Pierre. Entre les lignes, Marc, quand il cherche des témoins, il parle de Pierre. Le schéma général de l'évangile de Marc aussi coïncide avec le schéma de la prédication de Pierre chez Corneille dans Actes chapitre 10, versets 34-43. Donc Marc est l'interprète de Pierre. Marc est le disciple de Pierre. Marc, c'est quelqu'un que le Seigneur a étudié, a éduqué durant tout un cheminement, combien d'années, je ne peux pas vous dire. Marc, il a commencé déjà par une maison de prière. Ils ont accueilli les apôtres et prié. Il avait déjà commencé l'œuvre en lui. Marc, le Seigneur l'a utilisé dans sa faiblesse, pas pour l'anéantir, mais il a utilisé sa faiblesse pour l'avancement de son royaume. Et on ne sait pas ce qu'il avait. Il a créé la séparation, distension entre Barnabas et l'apôtre Paul. Ils sont partis de deux sphères différentes, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Son cousin l'a maintenu, mais le Seigneur a œuvré pour l'éduquer et à travers son cousin. Au point que l'apôtre Paul l'accepte comme soutien, et enfin, pour que Pierre le considère comme son fils, y compris son fils spirituel. C'est seulement à ce marque-là, Dieu lui a dit, maintenant, tu peux écrire l'évangile. Et souvent, on s'arrête seulement Marc. Mais il y a un passage, je trouve très intéressant, on le verra quand on va étudier Marc, mais je trouve très intéressant qu'il est là, mais on ne sait pas ce qu'il fait là, ce passage-là. Certainement, vous êtes tombé dessus, mais ce n'est pas possible dans l'évangile de Marc. Ça n'a pas de sens entre avant et après. D'un seul coup, il y a ce passage qui apparaît. Ce passage, c'est dans chapitre 14, je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà, chapitre 14, verset 51-52. Je suis un peu en avance par rapport à l'étude, mais je trouve très intéressant de le dire dès le début pour voir, pour vous présenter Marc. Voilà ce qu'on lit. En fait, Marc, il est en train de nous raconter l'histoire de Jésus. Et d'un seul coup, hop, on voit ça. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons, vous, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et là, il y a un truc qui apparaît là. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, voilà, je l'ai répété, il a pris la fuite tout nu. Et après, l'évangile continue. Et ensuite, je dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais pourquoi? On ne sait pas qui. Pourquoi on raconte cette histoire-là? Et là, encore une fois, je dis, peut-être, je peux me tromper. Et si c'était la signature de Marc pour nous dire c'est lui? Ça, je vous laisse. C'est pour tellement humble, il est en train de s'expliquer que ce jeune homme-là, c'était Marc. Et je le fasse aussi de signer, comme quoi c'est l'évangile, c'est moi qui vous écris. Parce que je ne vois pas. Parce que si c'est le cas, si c'est Marc, Alors là, je dirais que le Seigneur s'il l'a choisi, c'est que non seulement c'était, il faisait partie de la famille qui accueillait les apôtres, c'est que Marc a rencontré, a vu le Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Et là encore, je ne serais pas étonné si le Saint-Esprit a fait appel à Marc. C'est ce Marc-là qui nous a écrit l'Évangile. Un jeune qui a vécu à Jérusalem à la même époque que le Seigneur Jésus-Christ, et qui a donc pu connaître son ministère et même être présent à ses dernières heures avant de mourir. Un croyant qui a fait partie de la première église chrétienne et dont la maison avait servi de lieu de réunion des apôtres dans la discrétion et des témoins de Jésus. Un disciple qui a accompagné l'apôtre Paul et Barnabas dans les premières étapes de l'extension du christianisme parmi les païens, et pour qui l'apôtre Pierre avait une très haute estime au point de le considérer en l'appelant mon fils. Une telle personne qui était directement reliée aux événements, aux principaux témoins de la vie de Jésus, était sans doute très qualifiée, préparée par le Saint-Esprit pour nous laisser son évangile, qu'on dit l'évangile selon Marc. Et c'est cet évangile que je vous invite dès la prochaine fois, peut-être après, à étudier. J'espère que ce parcours de Marc nous interpelle sur beaucoup de points. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses comme ça. Il y a une préparation qui se fait dans les cœurs. Et quand il dit c'est le moment, c'est la conséquence d'un cheminement qui se fait. Que ça guide notre Église, que ça guide chacun de nous. Et maintenant, on pourra dire que nous pourrons écouter le Saint-Esprit dans chacun de notre cœur, ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait, Marc ?